Vous écoutez
RMC.
Il est 6h sur RMC, RMC Story. Bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et à 6h, c'est l'heure de retrouver Clément Gouitz pour le journal. Bonjour Clément.
Bonjour Elise, bonjour à tous.
On connaît, ça y est, les 26 bleus pour conquérir le mondial.
Didier Deschamps a dévoilé sa liste hier soir des absents. Camavinga, Chevalier, Colomouani. Et des petites surprises, le gardien lensois Risser, Jean-Philippe Mateta et Maxence Lacroix. Et vous, qu'en pensez-vous de cette liste? RMC est allé vous poser la question. Nantes secoué par une nouvelle fusillade, 26e depuis le début de l'année. Un adolescent tué, deux autres blessés, dont un grièvement. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, attendu sur place ce matin. Les habitants, eux, sont sous le choc. Faire plaisir à ses enfants devient un luxe pour de nombreux parents. C'est l'un des enseignements forts du baromètre de l'Union nationale des associations familiales que l'on vous révèle ce matin sur RMC.
Et donc 26 bleus convoqués pour le mondial.
La Coupe du Monde débute dans moins d'un mois et Arthur Perrault, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a donc annoncé hier soir les 26 joueurs qui feront partie du voyage.
Oui, une liste dévoilée hier soir au JT de 20h de TF1. L'issue d'une journée non sans émotion pour Didier Deschamps avant son ultime Coupe du Monde comme sélectionneur des Bleus.
J'ai bien conscience avec mon staff technique. Il y a beaucoup de moments qui ont été les derniers. C'est une émotion particulière, mais je le vis bien, nous le vivons bien parce que l'équipe de France est au-dessus de tout.
Parmi les surprises annoncées par le coach de l'équipe de France, la présence de l'attaquant Jean-Philippe Mateta, le joueur de Crystal Palace en Angleterre, ne cachait pas sa joie hier soir dans After foot.
Rêve de gosse, je réalise pas encore. J'ai appris comme tous les Français devant la télé. Moi, on m'a rien dit. J'ai voulu le voir comme tout le monde. J'ai regardé TF1. Et j'espère aider l'équipe à gagner en marquant des buts.
Avant ce mondial, la France, première nation au classement FIFA, est clairement l'équipe à abattre. Le défenseur Ibrahima Konaté, invité de l'After foot.
Tout le monde pense qu'on est les favoris, donc va pas falloir tomber dans ce piège-là. Va falloir arriver avec une mentalité de guerrier.
Le grand début de la Coupe du Monde pour les Bleus est prévu le 16 juin prochain avec un premier match face au Sénégal.
Et des absents dans cette liste, Eduardo Camavinga, Randal Kolo Muani et Lucas Chevalier. Quelques surprises, Mateta, le gardien lensois Robin Risser ou encore le défenseur Maxence Lacroix. Et vous, qu'en pensez-vous de cette liste? Justement, Victor Girard a suivi pour RMC l'annonce de la liste à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis avec des jeunes footballeurs.
Moi, je suis globalement satisfait dans la majorité. Sur le papier, je pense qu'on a quand même la meilleure équipe.
Offensivement, c'est une très bonne équipe, top joueur.
Mbappé, Dembélé, Olysée, Ryan Cherki.
Fait rarement mieux aujourd'hui en Europe et même dans le monde.
On a un entraîneur qui a de l'expérience aussi. On a Deschamps, qui a eu sa Coupe du Monde déjà en 2018. Donc je pense qu'il peut refaire la même chose cette année.
Il y a quand même d'autres nations assez fortes avec des très bons joueurs. Vous avez pas peur?
Non.
Donc on est français, on est là. Ils n'ont qu'à venir ceux-là.
On a un bon collectif, on a un bon sélectionneur, on est confiant.
Deux matchs de préparation avant le mondial pour les Bleus, le 4 juin face à la Côte d'Ivoire à Nantes, puis le 8 juin face à l'Irlande du Nord à Lille. Le mondial débutera le 11 juin prochain, à suivre sur RMC. L'antenne sera 100% Coupe du Monde de 18h à 5h du matin.
Et en plus de ça, il y aura la radio digitale 24h sur 24 à retrouver sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Et puis dès ce matin au 32-16, venez nous dire ce que vous pensez de cette liste. Est-ce qu'elle est faite pour gagner ou est-ce qu'on s'emballe un petit peu? Et puis tiens, je vous donne un rendez-vous aussi, le quatrième épisode des Nouvelles Voix de l'After qui sort à 18h ce soir sur la chaîne YouTube de l'After Foot. 5 candidats qui s'affrontent cette fois, vous souvenez, dernier épisode, c'était au Stade Vélodrome.
Chez vous, à Marseille.
Évidemment, on part à Lens, au Stade Bollard cette fois, 18h, la chaîne YouTube de l'After Foot.
Il est 6h03 sur RMC et Laurent Nunes est attendu à Nantes ce matin.
Le ministre de l'Intérieur se rendra ce matin dans le quartier du Port Boyer, lieu où une fusillade a éclaté hier soir. Un 26e fusillade depuis le début de l'année dans la métropole nantaise. Un adolescent de 15 ans a été tué. Deux autres blessés, dont un garçon de 13 ans, dans un état critique. Réaction ce matin de l'attente de la victime.
C'est la consternation, on est sous le choc de tel drame, en fait on en a marre, on ne veut plus, on vit dans la peur. C'est vrai que Nantes s'est engrainé par tout ce qui est le trafic et tout, mais en tout cas non. Lui il n'était pas du tout dans ça, il était juste venu rendre visite à un ami. Il était juste assis, en train de parler, de rigoler, et puis il y a quelqu'un qui est arrivé, voilà. On est sous le choc.
4 interpellations dont le principal suspect de la fusillade lundi à Nice. Fusillade qui a fait 2 morts et 6 blessés dans le quartier des Moulins. Ils sont actuellement en garde à vue.
Patrick Bruel, rattrapé une nouvelle fois par des accusations de violence sexuelle.
2 plaintes supplémentaires ont été déposées mardi. Une 20aine de femmes au total dénoncent des violences sexuelles selon Mediapart. Lui conteste les faits. Et Constance Bostoen du service police-justice d'RMC. Ce n'est pas la première fois que ces 2 femmes accusent Patrick Bruel.
Oui, l'une des plaignantes dénonce une agression sexuelle dans une cabine de massage en juillet 2019 à Perpignan. L'autre accuse Patrick Bruel d'une tentative de viol en 2010 à son domicile lors d'un rendez-vous professionnel. Ces 2 femmes avaient déjà déposé plainte il y a quelques années, mais la procédure avait été classée sans suite, comme le rappelle Christophe Ingrin, l'avocat du chanteur au micro de BFM TV.
Patrick Bruel se défendra, comme il s'est défendu déjà à l'occasion des 2 enquêtes qui ont précédé ces plaintes avec constitution partie civile, qui ne sont que redites, des plaintes qui avaient déjà été l'objet d'enquête. Si un juge d'instruction est désigné, bien, très bien.
La saisine d'un juge d'instruction, c'est justement ce qu'espèrent les 2 plaignantes, confortées, selon leur avocate, par le récit d'autres victimes dans la presse ces dernières semaines. En plus de ces nouvelles plaintes, Patrick Bruel est actuellement visé par 3 autres procédures, dont 2 en France et 1 en Belgique.
L'ancien professeur de sport piégé en ligne par un traqueur de pédophile a été placé en détention provisoire et mis en examen à Vesoul. Cet homme de 66 ans a déjà été condamné l'année dernière pour détention d'images pédopornographiques. Bilan revu à la hausse après une attaque massive russe dans la nuit de mercredi à jeudi sur Kiev. Au moins 24 morts, dont 3 enfants. La capitale observe aujourd'hui une journée de deuil.
Il est 6h06 sur RMC. Cette année 2026 marque peut-être un tournant pour les familles françaises, Clément.
Difficulté à préparer à l'avenir, pouvoir d'achat en berne, inquiétude grandissante. Le nouveau baromètre de l'Union nationale des associations familiales que l'on vous dévoile ce matin sur RMC, Pierre Bourgès, révèle un malaise inédit chez les parents. La vie de famille est importante pour 97% d'entre eux. Un chiffre qui baisse pour la première fois depuis la création de ce baromètre.
Et c'est peut-être la conséquence des difficultés rencontrées par les parents cette année, à commencer par le pouvoir d'achat des familles. Un tiers d'entre elles ne peut plus se permettre de faire plaisir à ses enfants. Un chiffre en hausse de 20% par rapport à 2024. Face à ces difficultés, la moitié des parents estiment que l'État ne soutient pas assez les familles. Un chiffre là aussi qui augmente de 10 points. On apprend également que certains sujets font l'objet de tensions récurrentes en famille. Le principal étant celui des écrans. Près d'un parent sur 2 trouve ce sujet compliqué à aborder avec ses enfants. Et puis, il y a la conciliation vie professionnelle, vie personnelle qui reste, quant à elle, toujours difficile à gérer pour les parents. Malgré une légère amélioration en 2026, plus de 7 parents sur 10 considèrent passer trop de temps au travail au détriment de la famille.
Alors, non seulement vous venez témoigner au 3216 et sur le WhatsApp 0612 424 424, mais restez avec nous aussi à 6h40. Nous recevrons le directeur des politiques familiales de l'UNAF qui a fait cette étude. Jean-Philippe Vallat sera avec nous donc à 6h40 sur RMC.
Ambiance automnale en plein mois de mai.
Ouais, pluie, neige, fraîcheur, ciel bas, le cocktail parfait pour gâcher ce long week-end de l'Ascension. Il ne fera pas plus de 17 degrés aujourd'hui à Saint-Malo. Martin Lange, les parapluies remplacent les lunettes de soleil.
Le mercure qui dépasse difficilement les 11 degrés, des rafales de vent. Venue d'Angers en famille, Alexia l'avoue, elle aurait préféré une météo plus clémente.
On s'attendait à avoir du vent, peut-être pas autant. On avait prévu le coupe-vent pour l'enfant, mais pas pour nous, en pensant qu'il n'allait pas faire aussi froid.
Pourtant, les plus téméraires bravent les éléments. À l'image d'Adeline et ses enfants, ils arrivent de Saint-Étienne.
Il y a un peu de vent, mais bon, ça ne nous empêche pas de pique-niquer au bord de la mer, profiter de l'extérieur, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, on sera dehors.
Capuche sur la tête et lunettes de soleil sur le nez, Charline et Olivier profitent des quelques rayons de soleil.
Finalement, on trouve qu'on a beaucoup de chance parce qu'ici, il pleut pas, il y a un peu de soleil. Il fait peut-être un peu froid, mais le vent fait chasser les nuages.
Il permet aussi à Étienne de profiter de son cerf-volant avec quelques précautions.
On multiplie les couches, je dirais, pour garder un peu de chaleur. Puis s'assurer que la casquette ne s'envole pas aussi. Ça, c'est important. C'est une petite difficulté parfois.
Sur la grande plage de Saint-Malo, les voiles multicolores se comptent par dizaines. Morgane sort tout juste d'une session de kitesurf.
C'est extraordinaire. Regardez, on est en combi et ça kite toute la journée.
Et elle est pas trop froide, l'eau ?
Non, pas du tout. J'ai même pas de gants ni de chaussons, donc faut en profiter.
Une eau à 13 degrés, 2 degrés plus chaud que la température extérieure.
Et rassurez-vous, une hausse des températures à partir de dimanche.
Il va falloir être un petit peu patient. Merci beaucoup Clément Gouitz, c'était le journal de 6h. Il est 6h09 et dans un instant, c'est l'heure du choix de la rédaction avec Louise Salé. Bonjour Louise.
Bonjour Élise.
Huile, tisane, bonbons, le CBD à usage alimentaire est interdit à partir d'aujourd'hui. Pour la filière, c'est 40% du chiffre d'affaires qui est en danger.
Oui, et ils s'inquiètent, ils ne comprennent pas cette interdiction, tout comme les consommateurs qui s'interrogent, est-ce qu'il y a ou non un danger pour la santé.
Votre enquête dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
5h-7h,
5-7, le Morning RMC,
Élise Dangean, Victor Pourchet.
Il est 6h13 sur RMC, sur RMC Story.
RMC, le choix de la rédaction.
Et c'est donc à partir d'aujourd'hui que tous les produits alimentaires à base de CBD, on parle des huiles, on parle des tisanes et des bonbons par exemple, tout cela sont interdits à la vente, alors qu'ils représentent pourtant 40% du chiffre d'affaires du secteur. D'après la filière, le CBD à fumer ou sous forme de liquide pour cigarettes électroniques reste quant à lui autorisé.
Bonjour Louis Salé.
Bonjour Élise, bonjour Victor.
Cette interdiction des produits alimentaires, elle est liée à une réglementation européenne. Alors pourquoi on peut plus, à partir d'aujourd'hui, acheter ces produits ?
Eh bien tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été officiellement autorisés par l'Union européenne. C'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, qui doit se prononcer. Mais sa réponse, eh bien, se fait attendre à cause sans doute d'un embouteillage administratif qui dure depuis quelques années. Et pour rentrer dans les clous, sans autorisation, impossible de vendre ces produits. Alors jusqu'ici, l'État français fermait les yeux. Mais il y a un mois, la Direction Générale de l'Alimentation, qui existe au sein du ministère de l'Agriculture, a annoncé qu'il fallait tout simplement les retirer de la vente. Les vendeurs sont sidérés, alors même que d'autres pays européens continuent de fermer les yeux sur cette absence d'autorisation. Frédéric est responsable d'une boutique à Boulogne, en région parisienne.
Toutes ces petites huiles qui vont être alimentaires vont être interdites, les bonbons, les infusions aussi. C'est pratiquement 50% de notre chiffre d'affaires, donc c'est quand même énorme. Et des clients français ou européens vont aller se procurer ce genre de produits à l'étranger, il n'y a pas de traçabilité, on ne sait pas. Même eux, ils ont du mal à comprendre.
Hier, en fin de journée, il a vidé ses rayons sous peine de sanctions. Il risque 1 500 € d'amende par type de produit, selon l'Union des professionnels du secteur.
Et les autres premiers concernés, Louise, les consommateurs, qu'en pensent-ils ?
Eh bien, eux aussi s'interrogent sur cette interdiction.
C'est hyper bizarre parce que ça n'a pas arrêté de faire des allers-retours entre autorisation, interdiction, ensuite réautorisation, ensuite réinterdiction, donc c'est un peu compliqué à suivre.
Je trouve que ça détend vachement et c'est important qu'il y en ait. Il y a plein de personnes à qui ça fait du bien, ça reste des plantes, c'est très dommage. Ouais. Je pense qu'après, tout est une question de dosage aussi. Et...
S'il y a des substances nocives, ça peut se comprendre, mais s'il n'y a pas de substances nocives, je le comprends moins.
Il est difficile de savoir si le ministère de l'Agriculture justifie cette interdiction par des raisons sanitaires. La Direction Générale de l'Alimentation n'a pas répondu à nos sollicitations. On sait en revanche qu'il y a eu peu d'essais cliniques qui prouvent les bienfaits thérapeutiques du CBD, donc il faut être très prudent là-dessus.
Mais est-ce que pour autant il y a des dangers pour la santé avec ces aliments à base de CBD, Louise ?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le CBD est classé sans risque par l'Organisation Mondiale de la Santé. Il ne provoque aucune dépendance, mais il contient tout de même une toute petite dose de THC, c'est la molécule principale du cannabis interdit en France, classée comme stupéfiant. Et si cette dose de THC dépasse le seuil légal de 0,3%, alors on peut ressentir les mêmes effets psychotropes que le cannabis, qui est donc une drogue. Selon l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire française, ce seuil n'est pas toujours respecté dans les produits à base de CBD. On retrouve parfois aussi des cannabinoïdes de synthèse, des molécules qui sont interdites en France, mais qui reproduisent chimiquement les effets du cannabis.
Et Louise, il y a un autre élément. On sait, d'après l'ANSES, que le nombre d'intoxications a fortement augmenté depuis 2024. Est-ce qu'il y a un lien avec cette consommation de CBD ?
Oui, et c'est à cause de ces ajouts de produits de synthèse ou des surdosages de THC dans la grande majorité des cas. Les symptômes vont de la simple fatigue à des crises d'angoisse, des hallucinations, des vertiges. Mais pour René Marais, il est pharmacien, addictologue à Paris, cela ne concerne qu'une petite partie du marché du CBD.
C'est pas les produits qui ont posé un problème, c'est le manque de contrôle. Il y a eu certaines boutiques qui ont été embêtées et qui ont dû fermer. Et à cause d'un dérapage de certains, tout l'ensemble est pénalisé.
Lui aussi a dû vider les rayons de sa pharmacie de compléments alimentaires à base de CBD. À noter tout de même que cette substance, sans surdosage ni produit de synthèse, a quand même des effets d'endormissement et elle peut entrer en interaction avec d'autres médicaments ingérés, hein, ce qui peut réduire eh bien, leur efficacité ou augmenter leurs effets indésirables.
Merci beaucoup Louise Salé pour cette enquête que vous signez ce matin pour RMC. On va tout de suite accueillir Jean-Pierre au 32-16. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Élise, bonjour Victor, bonjour à toute votre équipe.
Ça va bien Jean-Pierre, vous nous appelez depuis la Chine, hein, on le sait, on le reprécise.
Ça va bien, merci.
On consomme du CBD en Chine, Jean-Pierre?
Non, c'est interdit.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait.
Il n'y a pas de cannabis.
Bon,
mais ils en produisent beaucoup, des petites huiles, des gummies, des choses comme ça. Oui, il y en a pas mal produit, il y en a beaucoup qui sont destinations des marchés américains et européens.
Et cette interdiction en France des produits alimentaires à base de CBD, ça vous fait réagir ce matin?
Moi, ça me montre, on va encore taper sur les petits commerçants français, malheureusement. Eux ne vont pas pouvoir les vendre, mais en sachant que ces produits se trouvent facilement sur Internet. Les gens qui ne pourront pas les acheter en commerce iront sur les sites Internet qu'ils ont l'habitude de fréquenter, ils les trouveront facilement.
Oui, donc, non seulement sur Internet, mais Louise le disait très bien aussi, Jean-Pierre, nos voisins sont un peu plus laxistes, on va dire, que nous sur cette vente-là.
Oui, tout à fait. Aux Pays-Bas, je sais qu'aux Pays-Bas, il y a une société spécialisée dans ça, qui vend sur Amazon et qui stocke et qui vend dans toute l'Europe. Donc voilà, aux Pays-Bas, c'est autorisé. Le problème, c'est la réglementation européenne. On a même sur le cannabis en lui-même, des pays qui l'autorisent, où la consommation est autorisée. On n'a pas une réglementation européenne qui est claire là-dessus, donc les gens qui ne peuvent pas se le procurer en France, ils vont le chercher ailleurs.
Avec des produits peut-être de moins bonne qualité aussi.
Oui, c'est ça, il y a aussi cette notion de qualité. Vous parliez des produits qui viennent de Chine, Jean-Pierre.
Ah, mais pour les deux usines que je connais qui fabriquent des gummies, eux, ils se plient à une réglementation, ils ont une certification, ils ont été contrôlés, ils fabriquent des produits aux normes CE, donc ils sont contrôlés, ont été contrôlés en amont et doivent fournir un certificat tous les deux ans à jour avec toutes les, ils répondent à un produit qu'on leur demande, ils ont un cahier des charges, ils suivent le cahier des charges, ils sont pas, voilà. Après, il y a certainement des usines qui font défaut et qui commercialisent aussi.
Ce que vous nous dites aussi, Jean-Pierre, c'est qu'encore une fois, en France, on se croit un petit peu meilleur que tout le monde et on applique les règlements avant tout le monde, quitte à ce que ce soit payé sur le terrain économique.
La taxe des petits colis l'a prouvé. On l'a arrêté en Europe alors que les Chinois s'étaient déjà organisés avec des stocks en Pologne et ils faisaient partir depuis la Pologne. Donc, malheureusement, en français, on l'a toujours plus blanc que blanc et économiquement, on le paye.
Oui. Merci beaucoup Jean-Pierre. Et puis si vous êtes commerçant, vendeur de CBD, vous êtes évidemment les bienvenus puisque ça va pour sûr avoir un fort impact sur votre activité. On vous accueille ce matin au 32-16, n'hésitez pas à réagir. Il est 6h20 sur RMC. Tu as un grand dilemme à nous proposer, je crois.
Un dilemme cinématographique. Est-ce que vous êtes plutôt ça, donc, la musique que vous entendez? C'est le Seigneur des Anneaux, c'est la bataille, l'épée, les orques, les elfes, tout ça. Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt ça?
Moi, je suis plutôt ça.
Plutôt Tintin. Ah oui, il y a de l'enquête, il y a aussi de l'action, mais bon, on est tout de même dans un monde un peu plus enfantin. Eh bien, le réalisateur Peter Jackson, tout juste auréolé d'une palme d'or d'honneur à Cannes, lui a fait son choix. Le Seigneur des Anneaux, il a un peu fait le tour, il en a réalisé quelques-uns. Il planche plutôt sur une suite aux aventures de Tintin sur grand écran.
Ah, c'est beau donc!
Alors, il y a déjà eu un épisode, hein, c'est Le secret de la licorne, réalisé par Steven Spielberg en 2011, réalisé par Steven Spielberg et produit par Peter Jackson. En fait, ce qu'il nous explique, Peter Jackson, c'est que le deal, c'était que lui réalise le numéro 2. Figurez-vous que c'est bien parti, puisqu'il nous indique qu'un scénario est tout prêt. Dans cette conférence de presse à Cannes, il a aussi dit que l'intelligence artificielle allait détruire le monde. On va rester sur l'info Tintin, ça vous va?
Oui, on est bien.
Allez.
C'est le week-end. Hein.
Il est 6h21 sur RMC. Bientôt l'heure de notre consultation gratuite avec le docteur Aurel Gage, mais ce sera juste après le rappel des trois grands titres de l'actu, Élise.
Et ça ne vous aura pas échappé. Ça y est, on connaît la liste des Bleus qui participeront au Mondial le mois prochain. Le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé les 26 joueurs qui l'accompagneront avec un assez peu de surprises, mais quelques pépites quand même de l'équipe médaillée d'argent au JO de Paris, Cherki, Olysée, Mateta, sans Lucas Chevalier écarté comme gardien numéro 3 au profit de Robin Risser. À Nantes, un adolescent tué dans une fusillade sur fond de trafic de drogue, un autre mineur de 13 ans est lui entre la vie et la mort dans ce quartier de Port-Boyer, déjà endeuillé le mois dernier. Laurent Nunes, le ministre de l'Intérieur, va se rendre sur place ce matin. Et puis Donald Trump qui assure que Xi Jinping n'enverra pas d'équipement militaire à l'Iran. Le président américain conclut aujourd'hui son sommet en Chine et il assure que son homologue chinois a même proposé son aide pour rouvrir le détroit d'Ormuz.
6h22 et grâce au truchement du doc, on comprend toujours tout à la science. Le docteur du morning est là. Bonjour Aurel Gage, de quoi parle-t-on ce matin?
Eh bien ce matin on va parler de...
Des masques. Excellent.
Des masques, est-ce que c'est vraiment utile et est-ce qu'on va se retrouver tous avec des masques en cette période un peu d'inquiétude globale?
Merci Aurèle, à tout de suite.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Victor Pourchet.
Il est 6h25 sur RMC et RMC Story et c'est l'heure de la consultation gratuite.
RMC, consultation gratuite.
Et vous l'avez sûrement remarqué, les masques font leur retour partout dans la rue. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a cette inquiétude autour de l'antivirus, ces souvenirs du Covid-19 qui remontent. On ne sait pas toujours à quoi ils servent réellement ces masques, ni comment les différencier. Alors grâce à votre truchement, docteur, on va essayer de tout comprendre. D'abord, est-ce vraiment utile d'avoir un masque?
Non, ce n'est pas plus utile d'avoir un masque actuellement qu'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Il faut en avoir des masques, c'est important. Mais ce qui est important aussi à savoir, c'est à quoi servent les masques. Les masques, l'utilité première, ce n'est pas de se protéger soi-même, c'est de protéger les autres. Et pourquoi on a cette, on va dire, cette croyance populaire que d'abord, je mets un masque pour me protéger, finalement, c'est plus pour protéger les autres, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez des masques qu'on voit, des représentations du Moyen-Âge, des masques de la peste. Là, vous
voyez, oui, avec le long bec.
Bah, on ne se dit pas que le médecin il mettait ça à l'époque pour protéger les autres, c'était pour se protéger lui-même. Mais en fait, l'utilité première d'un masque, c'est tout simplement de vous protéger des postions. Pour que vous visualisiez un petit peu comment ça fonctionne quand vous parlez, eh bien, vous allez parfois, lorsqu'il y a certains virus qui ont une transmission dite aérienne, eh bien, ils peuvent tout simplement s'accrocher à des billes d'eau. Des billes d'eau, et donc ça va faire que lorsque vous allez envoyer ces billes d'eau sur quelqu'un, eh bien, il va être infecté. Pour résumer. Donc vous imaginez, vous avez des billes d'eau que vous envoyez comme ceci à la personne. Non, non.
Alors pour les auditeurs de RMC, il a ramené la petite bombe d'eau, c'est ça?
Voilà, la petite bombe d'eau, exactement.
C'est pas de l'eau, c'est du déodorant.
Mais donc imaginez, vous mettez une interface entre vos postillons et tout simplement, eh bien, la personne, vous avez beaucoup moins de chances de la toucher. Donc vraiment, l'objectif premier, c'est tout simplement de retenir tous les postillons. Et puis, la deuxième chose, ça va être que si on vous crache dessus, entre guillemets, eh bien, ce sera absorbé par le masque.
Élise Dangean s'est écartée parce qu'effectivement, il y a un petit peu du déo par.
Mais bon, vous voyez ça. Là, par contre, vous voyez l'odeur. Eh ben, c'est les petites particules. C'est-à-dire que les gros postillons, c'est pratique, c'est protégé par le masque, ça permet de les éviter. Mais là, tout ce que vous êtes en train de ressentir, c'est des particules en suspension. C'est vraiment des particules très fines. Et justement, pour certains virus, ils vont être capables de rester en l'air. Et dans ce cas-là, il va falloir justement un masque FFP2, puisque le masque FFP2, ça va vraiment protéger toute la bouche, tout le contour, et ça va permettre justement d'éviter que ça passe par les interstices.
Oh ouais. Donc... Bon, là, c'est plutôt un masque à gaz qui m'aurait fallu. Je ne vous remercie pas, Aurel Gage. C'était pas très sympa de votre part. Mais bon, en tout cas, vous avez eu des conseils sur les masques. Ça, c'est utile pour vous, auditeurs et téléspectateurs d'RMC. Il est 6h28 et c'est l'heure de jouer avec Dominique qui nous appelle depuis Nozay en Loire-Atlantique. Bonjour, Dominique.
Bonjour, comment allez-vous?
Eh ben, ça va très bien, et vous?
Merci, impeccable. Il fait beau ici à Nozay, impeccable.
Ah bah vous avez de la chance, Dominique.
Oui. Et ça va aller encore mieux si vous avez trouvé le mot caché, Dominique. Est-ce que vous savez, vous avez deviné lequel il était ce matin?
Et tout à fait, je l'ai entendu. Il s'agit du mot truchement.
Félicitations! Il était un peu technique, j'ai trouvé, ce matin. Oh. En fait, je me suis dit, on l'entend quand même régulièrement. Peut-être qu'ils vont pas le voir, ils vont pas l'entendre. Bon, finalement, Dominique...
Vous l'avez, truchement, intermédiaire, interprète. Félicitations, Dominique. Vous allez pouvoir partir en week-end avec la personne de votre choix dans un casino par touche, avec le repas, les animations et même 30 euros de jetons qu'on vous offre.
Eh bien, dites donc, quel plaisir.
Vous êtes un petit gâté, Dominique. On vous souhaite une excellente journée.
Il est 6h30 sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
L'heure d'accueillir Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
Et à la une nouvelle fusillade.
Un adolescent de 15 ans tué par balle, c'était hier soir. À Nantes, on va y revenir, un autre de 13 ans est entre la vie et la mort. Ce drame en Bretagne, nouvel accident de longe côte. Deux morts en pratiquant cette marche aquatique très répandue sur le littoral. Et on va revenir dans le journal sur la liste des Bleus pour le Mondial et la surprise. Robin Risser, choisi comme troisième gardien.
Et c'est donc encore dans la ville de Nantes qu'une fusillade a éclaté hier en début de soirée.
Avec en toile de fond le narcotrafic, la piste est d'ores et déjà évoquée par le procureur de cette ville où les fusillades se multiplient depuis le début de l'année. Et alors cette fois, Inès Aiglou, l'un pour RMC, c'est un adolescent de 15 ans qui a été tué dans le quartier Port-Boyer.
Tué par balle, il venait d'avoir 15 ans seulement. L'adolescent aurait été touché en plein cœur. Deux autres victimes sont à déplorer. Deux mineurs, là encore 13 et 14 ans. Le plus jeune, gravement blessé. Il est environ 19h30 hier soir lorsque les coups de feu retentissent dans un immeuble du quartier. Des individus venus sur un deux-roues ouvrent le feu avant de prendre la fuite. Un règlement de compte, indique le procureur, sur fond de narcotrafic. Scénario similaire il y a quelques semaine déjà. Dans le même quartier endeuillé, fin avril, un jeune homme y avait perdu la vie. C'est là 26e fusillade en à peine 5 mois pour la métropole nantaise. Un drame absolu, se désole la maire de la ville.
Et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sera sur place à Nantes ce matin, sans doute pour évoquer la bataille contre le trafic de drogue. Vous savez que plus tôt dans la semaine, c'est à Nice qu'une fusillade avait fait 2 morts et 6 blessés dans le quartier des Moulins. 4 suspects, dont le tireur présumé, ont été placés en garde à vue. Ils ont été interpellés hier. Et alors cette nuit, la Marine nationale a annoncé cette très grosse saisie de 3,4 tonnes de cocaïne sur un navire de pêche, ça s'est passé dans l'Atlantique.
Il est 6h32 sur RMC, sur RMC Story. On en vient à ce nouvel accident de longe côte hier sur une plage du Finistère.
Oui, c'est une pratique très répandue sur le littoral, de la marche aquatique avec de l'eau jusqu'à la taille, souvent équipée de combinaisons quand l'eau est froide. Mais elle a tourné au drame donc hier avec la mort de deux personnes de plus de 60 ans qui participaient à une marche avec un groupe. Ça se passait au Conquet, malgré les mauvaises conditions météo, hein, Mélie Courtet.
Un ciel assombri, un vent fort, une mer à 13 degrés.
Des rouleaux pas très hauts et puissants et resserrés.
Décrit le maire du Conquet, Jean-Luc Milin. Lui s'est rendu rapidement sur place en fin de matinée.
J'étais malheureusement le spectateur d'une situation dramatique.
Appelé par les pompiers.
Annonçant qu'il y avait donc 5 personnes qui s'étaient noyées au Blanc-Sablon. C'est une plage qui n'est pas dangereuse, il n'y a pas de rochers dans l'eau. Au moins, ils ont été basculés par une vague qui était plus forte. Ils ont été déséquilibrés, quoi.
Le groupe de 8 personnes originaires du secteur brestois était habitué à faire du longe-côte, équipé d'une combinaison de gants lors de leur randonnée aquatique. Mais ça ne suffit pas, insiste Véronique Tanguy, présidente d'une association de longe-côte à Brest. Elle déplore le manque de vigilance de plus en plus de pratiquants.
Beaucoup de groupes ne sont pas encadrés, n'ont pas de personnel qui connaissent la mer, qui savent si on y va, si on n'y va pas. C'est dangereux pour quelqu'un qui ne sait pas gérer les vagues. Mais ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. En tous les cas, il faut avoir sur soi un matériel pour prévenir les secours et être conscient que la mer, c'est un danger permanent.
Elle se dit bouleversée par la noyade au Conquet. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de l'accident.
Et alors ce drame intervient quelques jours seulement après la mort d'une sexagénaire lors d'une compétition. Ça se passait dans l'Hérault. Une dame à qui un hommage était rendu hier dans le Var. Des nouvelles rassurantes quant à l'antivirus ce matin. Sachez que tous les cas contact français ont été testés négatifs. Et alors c'est pareil, on l'a appris dans la nuit aux États-Unis où le passager américain du navire de croisière qui avait été testé positif. Finalement, de nouveaux examens ont été réalisés et il est négatif donc à l'antivirus. C'était encore l'événement de la nuit. La fin du sommet États-Unis-Chine à Pékin. La Chine en position de force, vous l'avez bien compris, qui a demandé un cessez-le-feu total au Moyen-Orient et la réouverture du détroit d'Ormuz. Ça, ce sera l'événement du week-end. La 70e édition de l'Eurovision qui se déroule en Autriche cette année. La représentante française Monroe y a chanté hier soir en demi-finale. Mais le concours est boycotté cette année par 5 pays pour protester contre la participation d'Israël. Appel d'ailleurs qui est relayé en France également, Cassandre Brault.
Oui, parmi les appels au boycott, on retrouve des députés de la France Insoumise, des artistes et plusieurs associations et collectifs qui, pour la plupart, font de la cause palestinienne leur priorité. C'est le cas du collectif BDS Saint-Étienne. Moni Ramoun est militante. Selon elle, la prestation d'Israël à l'Eurovision est une manœuvre calculée.
On appelle au boycott de l'Eurovision parce que Israël a une stratégie de redorer son image à travers la culture en général, le sport en général et l'Eurovision en particulier. Et donc, ça sert à redorer l'image d'Israël et à faire oublier les crimes. Et donc, c'est ça qui est visé.
Mais pour Benjamin Zimmermann, le vice-président du collectif Nous Vivrons, né au lendemain du 7 octobre, le concours international de chant est censé être un rendez-vous fédérateur.
Normalement, ce sont plutôt des valeurs universelles, des valeurs de paix, de communion entre les peuples. Et ce qu'on remarque avec ces appels à boycott, on est tous sauf sur ces valeurs-là. Et je ne vois pas pourquoi on arrêterait de diffuser un concours musical où la France participe.
À Paris, la ville a prévu de diffuser la finale de l'Eurovision demain soir dans une fan zone.
Il est 6h35 sur RMC. Il y en a un qui doit être content ce matin, c'est le gardien de Lens, Robin Risser.
Meilleur gardien, oui, de la saison de Ligue 1 cette saison et qui a donc été retenu par Didier Deschamps dans la liste des 26 pour le Mondial en Amérique. C'est la surprise de la liste, Valentin Jamin.
Oui, Robin Risser connaissait les Bleus en tant que gardien chez les Espoirs, car il venait parfois en fin d'entraînement avec les A.
Pour les séances du lundi, il a eu le bonheur de venir, de se faire canarder, comme on dit.
Mais cette fois, le sélectionneur Didier Deschamps l'a bien appelé dans le groupe France avec l'absence de Lucas Chevalier, remplaçant depuis fin janvier au PSG et blessé.
Robin, il est jeune, il fait une très très belle saison. Le critère prédominant et essentiel, c'est un critère sportif.
Avec Lens, l'ancien Strasbourgeois a joué tous les matchs pour sa première saison en Ligue 1, une révélation. Il a été élu lundi meilleur gardien du championnat.
J'étais un enfant rêveur. Peut-être qu'en début de saison, si on m'avait dit ça, je n'y aurais pas forcément cru. C'est le fruit d'un travail de longue haleine et de beaucoup de sacrifices.
Comme numéro 3, Risser a très peu de chances de jouer, mais c'est un rôle qui lui convient bien, confirme Alexandre Sazarin, son ancien formateur à Colmar en U13.
Ça a toujours été quelqu'un de très très apprécié par les autres dans un vestiaire. Et il part quand même avec des valeurs simples. Dans tous les groupes où il est passé, il a laissé sa marque. C'est un garçon qui attendra son temps. Et lui, ce qu'il veut, c'est progresser, travailler.
Inconnu il y a un an, Robin Risser va donc vivre sa première Coupe du Monde et peut encore gagner la Coupe de France avec son club.
Alors le gardien Risser, mais aussi l'attaquant Mateta et le défenseur Lacroix, retenu pour ce mondial qui commencera contre le Sénégal au stade de New York, juste à côté de l'endroit où sera d'ailleurs installé le studio de RMC Radio officiel de cette Coupe du Monde. Parmi les absents, on note pêle-mêle le gardien Chevalier, les milieux Tolisso Camavinga, les attaquants aussi Thauvin, Kolo Muani qui seront pas de la partie. Il y a aucun joueur de l'Olympique de Marseille est dans cette liste, c'était plus arrivé depuis 1986.
Information majeure à relever, évidemment. Le quintet, ce sera à Vincennes ce soir.
Ce sera à 20h15, le 14 et le 8, comme pronostic de la Dream Team des courses RMC. Aujourd'hui, le 14 en favori, Come With Me, et le 8 en outsider, Cameron.
Merci Quentin Vinet, c'était le journal de 6h30, et vous en avez parlé, cette liste de Didier Deschamps. Ça fait réagir ce matin, évidemment, au 32-16. On a Stéphane, qui nous appelle depuis Fréjus, dans le Var. Bonjour Stéphane.
Bonjour Élise, bonjour Victor.
Alors
bonjour.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette liste, Stéphane? Est-ce qu'elle vous semble convaincante?
Alors pour moi, en fait, il n'y a pas de surprise. C'est, ça reste dans la continuité des listes de Didier Deschamps. C'est, voilà, pour moi, il n'y a pas de surprise à 99%.
Pas de surprise, mais est-ce que c'est une bonne liste? C'est pas la même chose.
Ah, pour moi, dans la continuité, pour moi, c'est une bonne liste. C'est une liste qui doit nous mener au moins en demi, voire à la finale de la Coupe du Monde.
Alors, on fait le point, on compte un peu les points depuis ce matin. On a d'abord eu Cyril au 32-16 qui nous a dit c'est victoire assurée. Mmh. On a ensuite eu un autre auditeur qui nous a dit on s'emballe un petit peu, on va pas aller jusque là. 2-1 avec vous Stéphane, on va aller au bout.
Ah ben pour ça, il a fait une liste exprès pour aller au bout.
Vous y croyez vraiment? Qu'est-ce qui vous rend si confiant? On a parlé de la continuité, mais si on parle des joueurs là, qu'est-ce qui vous rend confiant?
Alors, ce qui me rend confiant, en fait, c'est dans toutes les lignes. C'est-à-dire qu'au niveau gardien de but, bon, à part le troisième gardien qui a une place particulière.
Ouais.
Et bon, on sait très bien que le gardien de Lens n'a pas joué, c'est juste pour faire le nombre. On a un gardien qui est au top. Niveau défense, je pense que on a une défense assez solide. Alors que pour gagner une Coupe du Monde, il faut une défense solide. À milieu de terrain, honnêtement, on a presque les meilleurs joueurs, je ne vais pas dire du monde, parce que j'ai exagéré, mais d'Europe.
Ouais.
Après, niveau attaque, on a l'embarras du choix.
Bon, gardien, milieu, attaque, défense. Bon, allez, on y va tout droit et ce sera évidemment à vivre sur RMC, radio officielle de ce mondial. C'est simple, à partir du début de la compétition, vous vous branchez de 18h à 5h du matin. C'est que de la Coupe du Monde et vous avez aussi la radio digitale sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Et là, c'est du 24h sur 24. Vous allez vous régaler. Merci beaucoup, Stéphane, de nous avoir appelé ce matin et vous continuez à réagir au 32-16.
Il est 6h39 et dans un instant, les parents qui ont toujours plus de mal sur le plan financier, mais pas que. Constat du baromètre de l'Union nationale des associations familiales que l'on vous révèle ce matin sur RMC à l'occasion de la Journée internationale de la famille. L'UNAF que vous représentez, Jean-Philippe Valla, bonjour.
Bonjour.
Quels sacrifices les familles doivent-elles faire pour joindre les deux bouts et surtout quelles conséquences sur leur quotidien? Vous nous répondez dans quelques minutes.
Et puis il y aura également la bande du morning au complet. Ils sont déjà là, Antoine Salva pour la causerie. On va continuer de parler de l'équipe de France.
Tout à fait, de la liste des Bleus avec un profil atypique, l'attaquant Jean-Philippe Mateta.
Et Anthony Morel pour C'est déjà demain.
On va s'intéresser aux matériaux de construction du futur. On connaît le bois, comme celui de la table. Je vais vous présenter le super bois. Voilà, c'est le bois d'après.
Aussi, toujours
je vais vous expliquer
plus.
À quoi ça sert.
Toujours plus. Allez, à tout de suite.
Jusqu'à 7h. 5-7, le Morning RMC. Élise Dangean, Victor Pourchet.
Il est 6h43 sur RMC et RMC Story. On vous pose une question ce matin. Est-il de plus en plus difficile d'être parent? L'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales, dévoile aujourd'hui son baromètre 2026. Et alors, on y apprend notamment que la capacité financière des familles n'a jamais été aussi fragile depuis 4 ans.
Et pour y voir plus clair, notre invité ce matin sur RMC, c'est Jean-Philippe Valla, le directeur des politiques familiales à l'UNAF. Bonjour.
Bonjour Victor.
On aimerait d'abord que vous nous expliquiez qu'est-ce que ça veut dire cette capacité financière des familles qui n'a jamais été aussi fragile depuis 4 ans.
Alors c'est une enquête que nous menons effectivement depuis 4 ans, donc un baromètre, donc on a cet effet un peu de continuité, voir qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas. Donc effectivement on a plusieurs items, certains concernent par exemple les difficultés éducatives qui ne changent pas tellement, c'est toujours la gestion des écrans qui revient beaucoup, c'est toujours les difficultés de conciliation mais sans décrochage fort. Par contre cette année, vous avez raison, on a vraiment un décrochage sur les capacités financières. Alors on interroge les parents sur 3 types de capacités financières, celles qui conduisent à faire face aux dépenses quotidiennes. Ça, il n'y a pas tellement de changements. Il y a peu de familles quand même qui ont des vraies difficultés, vraiment pour les besoins essentiels. Par contre, pour tout ce qui est faire plaisir à leurs enfants et encore plus préparer leur avenir, il y a un vrai décrochage. 10 points de pourcentage, c'est beaucoup. Il y avait à peu près 40% des familles qui exprimaient des difficultés. Aujourd'hui, on est à plus de 50%.
Jean-Philippe Valla, quelles sont les familles les plus touchées que vous avez identifiées?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de familles sont touchées. Alors certaines plus que d'autres, on observe un effet déjà territoire. Les agglomérations entre 2000 et 20 000 habitants, c'est-à-dire les petites communes, le monde rural, le monde périurbain, sont plus touchés que les autres. Là, il y a vraiment un effet très net. Les femmes, les mamans se plaignent plus que les hommes. Alors ça, c'est plus classique. C'est vrai qu'elles sont plus aux avant-postes de ces questions budget de famille. Donc effectivement, ça c'est plus classique, mais il y a 56% des mères qui expriment des difficultés sur ce point-là.
Les parents solos, j'imagine aussi.
Et les parents solos, vous avez tout à fait raison, ça ressort toujours. Là, c'est aussi un classique et c'est vrai qu'on est à des pourcentages élevés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même sur l'ensemble des parents qui expriment des difficultés. Même, vous voyez, ce qu'on appelle les CSP+, les gens plus aisés, on est quand même à 45% qui disent on s'inquiète pour l'avenir sur le plan financier pour aider nos enfants.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des petits plaisirs en moins, c'est des sorties, c'est ce genre de choses qui sont directement impactées avant, parce que vous nous le disiez, les besoins essentiels sont globalement couverts.
Alors, les parents font des arbitrages, c'est la suite de notre enquête qu'on n'a pas encore complètement exploitée, vous nous réinviterez pour la suite de l'enquête. Mais voilà, on est là plus sur des hypothèses, c'est plutôt effectivement tout ce qui est vacances, loisirs, qui sont les premiers impactés. Hein. Moi, je voudrais dire quand même un mot aussi, c'est ce que nous disent les parents sur les politiques publiques. Hein, on a parlé démographie ces derniers temps, même le président de la République en a parlé il y a 2 ans, les politiques en parlent de plus en plus, et c'est vrai que dans ce contexte, la difficulté financière à préparer l'avenir pour les parents, c'est un phénomène d'inquiétude aussi du côté des politiques publiques.
53% des parents qui déclarent ne pas avoir les moyens de préparer l'avenir de leur enfant, c'est 10 points de plus qu'en 2024. Est-ce que du coup, il faut s'inquiéter d'un phénomène de cercle vicieux et de reproduction finalement d'enfants aujourd'hui qui auront du mal à assurer l'avenir de leurs enfants demain ?
Alors c'est vraiment notre inquiétude. C'est vraiment notre inquiétude aussi sur le pessimisme que ça implique. C'est-à-dire, il y a la réalité. Je pense que les parents sont pas démagogues. En fait, quand ils nous disent ça, c'est pas de la plainte pour la plainte. On voit bien que jusqu'à présent, ils dépendaient. T'es pas à ces niveaux-là. Je pense que c'est vraiment exactement ce que vous dites, c'est qu'on soit pas dans un cercle vicieux de perte démographique, d'hésitation à avoir des enfants aussi, parce que les gens ont envie d'avoir des enfants, le désir d'enfant, il reste à peu près stable, mais cette inquiétude, elle peut peser. Et puis dire, ils attendent aussi des aides des politiques publiques. Et ça aussi, ça ressort aussi beaucoup de notre enquête. Il y avait 40% à peu près des parents qui trouvaient insuffisants les aides. Vous voyez qu'on n'est pas sur des parents démagogues, ils attendent pas tout de l'État. Là, on est à plus de 50% qui nous disent, on est aimerait être davantage aidé.
Et c'est vrai qu'avec cette crise, on parle beaucoup de la hausse des prix des carburants. D'ailleurs, je précise que votre enquête, elle ne prend même pas encore en compte cet impact de la crise des dernières semaines qu'on vient de vivre. Il n'empêche qu'il y a cette crise, il y a cette hausse des carburants. Et dans les aides qui sont annoncées par le gouvernement, le mot famille, il ne revient pas énormément. C'est peut-être aussi de là que vient cette insatisfaction.
Vous avez entièrement raison. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les ménages sont traités. Alors, tous les ménages souffrent. L'inflation, les carburants, ça touche tout le monde. C'est vrai que quand on a des enfants, c'est plus dur. Parce qu'il y a des dépenses contraintes, parce qu'on hésite beaucoup plus à faire des sacrifices pour ses enfants que pour soi-même. Notre enquête, d'ailleurs, le montrera. Et vous avez raison, on aimerait que dans ces questions de pouvoir d'achat, la question des familles qui ont charge d'enfants soit davantage posée.
Merci Jean-Philippe Vallat. Je rappelle que vous êtes le directeur des politiques familiales à l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, qui publie donc aujourd'hui son baromètre 2026, notamment sur la capacité financière des familles françaises. Il est 6h48.
Et on va retrouver la bande du morning dans quelques secondes. Mais Élise, tu nous rappelles d'abord les trois grands titres de l'actualité ce matin.
Et on connaît les 26 bleus pour conquérir le mondial. Didier Deschamps dévoilé sa liste hier soir avec des absents, Camavinga, Chevalier, Colomouani et des petites surprises, le gardien lensois Risser, Jean-Philippe Mateta et Maxence Lacroix. Voilà pour cette liste du mondial dont RMC est la radio officielle. Nantes, secouée par une nouvelle fusillade, la 26e depuis le début de l'année, un adolescent tué, deux autres blessés dont un grièvement. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est attendu sur place ce matin. Et puis en Haute-Saône, l'ancien professeur de sport piégé en ligne par un chasseur de pédocriminels a été mis en examen et placé en détention provisoire hier.
Il est 6h49. Et la bande du morning est au complet. Antoine Salva à ma gauche, Anthony Morel à ma droite. Je m'applique parce que hier j'ai un peu mélangé les deux, donc je fais attention. On va commencer par toi Antoine, avec évidemment au menu de ta causerie ce matin la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde de foot. Pas de grandes surprises hier, même si certains joueurs vont découvrir le mondial.
Et Victor, ils seront 13 à disputer leur première Coupe du Monde. C'est le cas des plus connus, Zaïre Emery, Olise ou Doué. Mais Monsieur Deschamps aussi chez les...
Attaquant, Jean-Philippe Mateta.
Eh oui, Mateta, 28 ans, sera donc du voyage aux États-Unis, une sélection loin d'être gagnée puisque l'attaquant de Crystal Palace était blessé au genou en début février. C'est donc un rêve de gosse pour le natif de Sevran en région parisienne.
Je réalise pas encore. Il y a beaucoup d'émotions. Quand je suis blessé, je sais que j'y pense et j'ai peur un peu. Mais quand je connais ma date de retour sur les terrains, c'était mon objectif premier. Et maintenant, très content d'être appelé. Maintenant, on continue. Il reste encore des matchs. C'est pas fini.
Et il s'agira de ne pas se reblesser lors de cette fin de saison, car si son club n'a plus rien à jouer en championnat, il disputera la finale de la Ligue Conférence dans une semaine et demie, aux côtés du défenseur Léo Lacroix, lui aussi appelé par Didier Deschamps.
Et alors plus généralement, Antoine, c'était pas du tout une évidence cette sélection, pour quelle raison ?
Alors Maxence Lacroix et pas Léo Lacroix, effectivement. Alors c'est tout simplement pour son parcours, hein, loin des destins de crack annoncés comme Dembélé, Mbappé et consorts. Formé à Châteauroux, il devient pro à Lyon en 2016. Et certes perçu comme un bon joueur, personne ne lui voit à ce moment-là une telle carrière. Et puis c'est à Mayence en Allemagne qu'il commence à se faire connaître avant d'éclore tardivement à Crystal Palace en Angleterre.
Et c'est donc outre-Manche que la magie, la bascule s'opère.
Avec le club londonien, il inscrit 60 buts en 190 19 matchs, le tout en 3 ans et demi, et soulève la Cup la saison dernière. Une trajectoire qui lui aura permis de découvrir le maillot bleu au JO en 2024, vice-champion olympique sous les ordres de Thierry Henry, qu'il avait appelé pour encadrer un groupe très jeune à Paris. Puis d'éveiller l'intérêt de grands clubs, mais la tuile, alors qu'il doit s'engager avec l'AC Milan l'hiver dernier, le club italien se rétracte après des examens médicaux poussés. Et puis il y a les destins croisés, quand le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mateta profite de la blessure d'Hugo Ekitike au printemps, mais aussi de la méforme de Randal Kolo Muani. Auteur de 2 buts en 3 matchs lors de la campagne de qualification mondiale, il offre, du haut de son 1m92, un profil différent au sélectionneur Didier Deschamps.
Un très bon jeu de tête, c'est un attaquant de surface, mais qui a une capacité de par sa taille à pouvoir se déplacer, mais c'est pas quelqu'un qui va aller près de la ligne de touche. C'est un profil différent qui donne une option qui peut être utile aussi.
Non seulement Didier Deschamps offre une option différente avec Mateta sur le plan sportif, mais le sélectionneur, toujours attentif à la vie de groupe, à l'ambiance lors d'un tournoi un peu long, sait qu'il peut compter sur la maturité et l'humilité de ce joueur pour participer à la conquête de l'Amérique.
Merci Antoine Salva. La causerie à retrouver évidemment en podcast sur le site et sur l'appli d'RMC. Notez que le rassemblement des Bleus, ce sera dès le 28 mai à Clairefontaine et début du tournoi le 16 juin face au Sénégal.
Évidemment, tournoi dont vous ne manquerez rien sur RMC Radio Officielle. 100% des 104 matchs de ce mondial seront commentés en direct. Vous avez aussi la
radio digitale.
La radio digitale 24 heures sur 24 de foot. Ça se passe sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Anthony Morel, c'est déjà demain. Et si la ville du futur était construite non plus en béton, mais en chêne, en mélèze ou en peuplier, du bois, ou plutôt du super bois aussi solide que l'acier? C'est possible, ça?
Mais bien sûr que c'est possible. Alors, on parle pas de bois classique, on parle, comme on a du béton armé, de bois armé, c'est-à-dire du bois renforcé. Alors, c'est du bois classique à la base, mais sauf qu'on va le transformer. C'est ce que font des startups comme les Français de Woodoo, notamment, qui sont très en pointe sur le sujet, ou les Américains d'Inventwood. En fait, il faut savoir que le bois, si on s'intéresse un peu à la science des matériaux, c'est un matériau qui est poreux. C'est une sorte de gruyère, en fait. Au niveau moléculaire, vous avez plein de trous. Et donc là, le principe, c'est qu'on va prendre ce bois et qu'on va venir y injecter une résine naturelle pour le renforcer et lui donner des propriétés qui sont extraordinaires. La première, c'est d'être incroyablement plus solide. On va se retrouver avec un bois qui est 20 fois plus résistant qu'une poutre de bois traditionnelle, et donc on va pouvoir construire des bâtiments, y compris très très hauts. On commence déjà à voir des bâtiments en bois dans les villes, des immeubles qui sont souvent relativement petits, mais là, on peut imaginer même des gratte-ciels carrément construits entièrement en bois. Et puis, il va être aussi ce bois résistant au feu, ce qui est pas mal pour du bois, et aussi imputrescible. Imputrescible, ça veut dire que ça ne peut pas pourrir. Il va résister notamment à l'humidité. Donc, on va lui donner plein de propriétés extraordinaires, sans compter les propriétés esthétiques, parce que les villes aujourd'hui, on est toujours avec de l'acier, du béton, du verre. Les architectes et les urbanistes, ils cherchent un petit peu de chaleur. Et c'est vrai que le bois, ça apporte aussi cet aspect-là. Et puis, le dernier point, c'est le point écologique également, puisque d'un point de vue environnemental et du bilan carbone, le bois, c'est 17 fois moins énergivore que le béton, 17 fois moins que le verre, 3 fois moins que le béton, 130 fois moins que l'acier et 475 fois moins que l'aluminium. Donc, énorme avantage également.
Donc, en fait, Anthony, on pourrait avoir des villes forêts.
Absolument. Ça intéresse de plus en plus les urbanistes, et il y a des projets complètement fous. Au Japon, par exemple, ils imaginent pour 2041, on a encore un petit peu de temps, un gratte-ciel qui serait aussi haut que la Tour Eiffel, même un peu plus haut, je crois, 350 mètres, et qui serait entièrement composé en bois, un immeuble absolument gigantesque, rendu possible par l'arrivée de ces nouveaux bois avec des propriétés extraordinaires.
C'est très beau.
Ouais, c'est beau, moi j'aime bien.
Esthétiquement aussi, ça va changer l'aspect de nos villes.
Complètement. Alors là, on aurait dit un cap-plat géant un peu. Moi j'aime bien le style. Je trouve que dans une ville de béton, ça fait ça casse un peu la monotonie et ça apporte quelque chose de nouveau.
Bon, écoutez, merci beaucoup Anthony pour ce bois armé.
Bois armé,
super bois ou bois armé. Ouais.
T'as fait rêver, hein.
Il est armé, Mathieu
Rivière. Comment allez-vous?
La bande du morning,
tout va bien.
Ils sont tous là, ils sont en forme, ils vous réveillent depuis 5h. Apolline Matin, c'est parti, je prends le relais avec vous au 32-16 et avec vos messages sur le WhatsApp RMC au 06-12-424-424. Avec ce drame à la une, 2 personnes mortes en faisant du longe-côte sur une plage du Finistère. Un sport très prisé en bord de mer. Est-ce que vous connaissez, parlez-nous-en au 32-16, des risques, des consignes de sécurité, des conditions dans lesquelles on pratique le longe-côte. On vous attend ce matin au 32-16 dans un instant. La météo et le journal, à tout de suite.
5-7, le Morning RMC.